Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Bonjour Fabrice.
Caroline Derumini sur Nutri Radio comme chaque semaine. Vous êtes de retour dans les studios, ça nous fait bien plaisir. Et alors on a fait deux émissions là, exceptionnelles avec Sabrina Lerche qui est diététicienne nutritionniste spécialisée pour les enfants 0-3 ans. Et c'est vrai que ça veut dire tellement de choses, ce moment de notre vie entre 0 et 3 ans où on a un rapport avec les aliments, où on nous donne à manger. Et derrière, ça va influencer notre
déterminer
notre caractère, notre rapport à l'alimentation, aux sentiments aussi, aux émotions qu'on va associer à certains aliments, au rejet même que l'on peut faire. Et donc, on s'est dit, oui, jamais 203, Sabrina, revenez pour une troisième émission, allons-y, autant ça se trouve on finit de toute la saison avec Sabrina. Voilà, c'est parti, bonjour Sabrina.
Bonjour Fabrice.
Alors, voilà, c'est des étapes importantes et vous savez c'est important parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des enfants entre 0 et 3 ans et puis on a tous été enfants. On a tous été enfants et puis on a des enfants aussi, on se souvient ce qu'on a fait et on se disait hors antenne après l'émission la semaine dernière, bah oui mais moi c'est vrai que j'ai fait ci, si j'avais su. Donc on s'est dit bon, on va prolonger la conversation tout simplement parce que Sabrina vous avez dit bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire. Vous vouliez commencer par quoi maintenant du coup?
Ah, c'est vrai que c'est un sujet qui est relativement vaste hein, puisqu'il y a presque autant de diversification qu'il y a de bébés ou d'enfants. Qu'est-ce que l'on pourrait redire par rapport à
non, pas
ce
redire,
qui a été
dire.
Dit pour, oui, dire.
Dire, parce que si c'est pour faire du
revenir,
rire, sortez du studio.
Revenir sur ce que l'on a dit pour aller même encore plus en profondeur. Donc on parlait effectivement des émotions des parents qui peuvent, on va dire... couler sur les enfants.
Alors ça, c'est un vrai sujet. Juste, Caroline, ce côté psycho, la généalogie, on n'a pas besoin de remonter bien loin.
Là, transgénérationnel, on est c'est pas de la psychogénéalogie, là, c'est du transgénérationnel. La psychogénéalogie, c'est quand on vient parler des morts, hein, ce qui va venir être au-delà de la troisième génération, généralement. Donc là, le transgénérationnel, on reste sur de la psychologie et on va pas vers la psychanalyse.
D'accord. Donc là, c'est direct.
Exactement. C'est que en fait, le comportement, le système familial est aussi, et c'est intéressant de venir parler du repas et de comment est-ce qu'on apprécie le repas dans les réunions de famille, dans le système familial. Est-ce que tout le monde se met à table en même temps? Est-ce qu'on mange devant la télé? Est-ce que, en mangeant, on a le droit de parler? Je parle des enfants et des familles un peu autoritaires. C'est super important de voir comment est-ce que, de manière systémique, ça va venir engendrer tout plein d'émotions autour d'un repas qui peut durer de 10 minutes, moyenne 20-30 minutes, mais des fois une heure et demie, et puis les réunions de famille, moi j'en ai connu à 4 heures. Mais après, c'est aussi tout ça qui va déterminer justement, un repas va venir fédérer la famille, va venir réunir, mais des fois on n'a pas envie d'être réunis aussi.
Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Tellement de choses à dire.
Tellement de choses à dire.
Surtout qu'on est en train de changer, et je vous laisse poursuivre, mais on est en train de... Aujourd'hui, là, les habitudes de, justement, le manger en famille, manger devant la télé, ça, c'est en train de changer. On est dans un virage aussi d'habitudes où les jeunes mangent aujourd'hui de manière individuelle avec leur tablette, leur machin. On mange un peu ensemble, mais chacun dans son petit univers.
Moi, je trouve ça très important de conserver ce moment de repas pour un moment où on peut parler de la journée, un moment où on peut se retrouver, un moment où on peut échanger. Et du coup, oui, c'est autour de la nourriture, donc ça va venir aussi parler au niveau des émotions, parce que quand on raconte la journée et que ça s'est pas bien passé à l'école ou que les enfants, enfin moi ils ont 3 et 6 ans, 7 ans, ils viennent se disputer à table, donc ça met aussi une tension dans le repas. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui sont générées pendant un repas aussi.
Ouais, c'est tout à fait ça, effectivement. Alors bon, on n'est pas là forcément pour parler de l'éducation, pas proprement parler, mais comment dire, c'est vrai que moins il y aura d'interactions et plus difficile sera finalement ce lien avec l'alimentation. Moi, je parle vraiment des tout petits, encore une fois, puisque c'est mon domaine, mais lorsque l'on invite le bébé qui n'est pas encore diversifié à table, c'est pour lui montrer comment on fait. C'est vraiment une transmission. On prend la fourchette, on porte à la bouche, on prend le verre, on porte à la bouche, et le bébé est là, il observe, il regarde. À l'époque où les baby chefs ou les, comment on appelle ça, les mixeurs pour
baby
bébé,
cook.
Tout ça, baby cook, je te remercie, je n'ai tellement pas utilisé que le nom est sorti de la tête. à l'époque où toutes ces choses-là maintenant où toutes ces choses-là existent, à l'époque, c'est pas si vieille, hein, c'est quand même le siècle dernier, il n'existait pas tout ça. Et les enfants étaient amenés à la table familiale et ils commençaient leur repas tout simplement parce qu'on leur trempait un bout de pain dans la soupe, etc. Il y avait vraiment cette transmission. Et c'est important d'expliquer aussi aux parents que cette diversification, c'est vraiment un apprentissage. Et qui dit apprentissage, dit forcément transmission. Qu'est-ce que moi j'ai connu et que je vais transmettre à mon enfant? Ou qu'est-ce que moi j'ai connu que je ne veux surtout pas transmettre à mon enfant? Et bien souvent aussi, on remarque qu'il y a des conflits de génération. Où le grand-parent, désolé les pauvres grands-parents, mais on entend souvent « Ah mais moi, à ton époque, je faisais ci. Ah mais moi, il faut faire comme ça. Ah mais je faisais comme ci. Et pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» Et il y a deux choses que je ressens, en tout cas, du côté de la maman. C'est ce côté nourricier, c'est typique de la mère. Hein. C'est moins souvent le papa quand même. Encore qu'il y a des papas qui cuisinent, qui aiment beaucoup s'intégrer là-dedans. Mais dans les consultations, malheureusement, j'ai beaucoup plus de mamans que de papas. Et on remarque que cette façon de qu'ont parfois les parents des parents de donner des conseils qui vont plutôt être des obligations cachées. Tu devrais faire comme si moi j'ai fait comme ça pour toi, ça marchait très bien. Et la mère se sent un peu dépossédée aussi de son enfant. Et souvent, quand elles viennent me voir, j'ai l'impression soulagée que je leur dise « Mais ok, vous faites bien en fait. Ce que vous faites, c'est très bien. Vos parents ont fait de leur mieux à l'époque avec les connaissances de l'époque et vous faites de votre mieux avec les connaissances de notre époque. Et rien ne dit que votre enfant n'aura pas aussi, dans son époque, une autre façon de faire. Et dans l'alimentation, j'aime bien dire cette phrase, c'est que la vérité d'aujourd'hui, c'est le mensonge de demain.
C'est-à-dire
que c'est pas parce qu'aujourd'hui on donne des conseils, des directives ou des... j'aime pas les directives, mais des conseils, des façons de faire, effectivement des modes, que demain ce sera la même façon, le même procédé et que ça fonctionnera de la même façon.
Oui, parce qu'en plus la recherche scientifique avance. Par exemple, sur les études, avant il fallait manger de la viande, il y avait un besoin de protéines, il fallait recommander de la viande, et là on se dit il faut végétaliser l'assiette, la viande c'est une fois par semaine. Qui sait, finalement, si dans 10 ans, 30 ans, on va nous dire là, comment ça, il n'y a pas de viande? C'est vrai que la vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être le mensonge de demain parce que, et il y a plein d'exemples comme ça où la science, on nous dit il faut faire ça, 10 ans après, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Non, mais c'est impossible.
Oui, on apprendra à manger des insectes dans pas longtemps.
C'est ça. On y est là, hein. Pareil.
Oui. Mais bon, on n'a pas encore intégré ça dans l'alimentation des tout-petits. Mais bon, ils n'attendent pas. Généralement, il y a un truc qui rampe et hop,
ils
dans
mangent
la bouche.
Mais ça, c'est vrai aussi.
Voilà, les vers de terre.
Manger des mouches et tout avant.
Alors, des mouches, non.
Vous n'avez jamais mangé des mouches?
Jamais mangé des mouches.
Quel type d'insectes vous avez mangé quand vous étiez plus jeune, Caroline?
Fourmis.
Oui, on a tous mangé des fourmis.
Cap ou pas cap, tu manges une fourmi.
C'est vrai, mais des mouches, des fois, vous savez, on gobe les mouches. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une mouche qui rentre en faisant du vélo ou un truc comme ça?
Tu la manges pas, là, tu fais pas exprès.
Ouais, on la mange. Ça ne nous arrive rien, je veux dire. Et Sabrina, un moustique, un insecte que vous avez
Certainement, en descendant une côte, bouche grande ouverte sur un vélo, j'ai dû.
Déjà, quand même, si on réfléchit bien, on va pas dire que c'est des insectes, mais déjà, les escargots.
Ah, j'adore ça.
Tout à fait.
Ouais, déjà, c'est un peu malade, ça traîne un peu sur les chemins. Non, ce que je veux dire, c'est que... Voilà, c'est un petit mollusque, mais je parle en termes de ce qu'on peut trouver quand on est plus jeune, on joue avec. Bon, c'est comme un petit escargot.
Ah oui, alors moi, ma fille... on est dans la nature, il faut remettre, il faut contextualiser, parce que je t'entends déjà à la suite de la phrase que j'allais dire, mais je me tais. Mais ma fille joue beaucoup dans la nature, étant donné que j'habite en montagne, et elle fait des élevages d'escargots, et avant de mettre dans la petite maisonnette, quand elle était petite, vers les 3-4 ans, elle les embrassait, chacun. Elle embrassait un escargot, mais le côté gluant, pas le côté de la coquille, et elle le mettait dans la maison.
Tiens, qu'est-ce qui peut expliquer si on...
J'ai des photos avec une quinzaine d'escargots sur elle.
Elle pensait que ça allait se transformer en prince charmant.
Non, elle était contente, voilà, c'est...
Qu'est-ce qui peut expliquer justement la différence? Un enfant qui va prendre une fourmi, qui va manger une fourmi, à un moment donné, c'est la tentation d'aller manger. Un enfant, il mange un peu n'importe quoi. D'ailleurs, chez soi, il faut cacher tout, les médocs, tout. Mais là, une fourmi, qu'est-ce qui fait qu'un enfant, à un moment donné,
la curiosité, tu mets tout à la bouche pour apprendre et avoir cette sensation de qu'est-ce que ça fait. Comme quand t'es petit et que tu mets le cube dans la bouche, t'es joué et t'as besoin en fait d'avoir la reconnaissance totale du VACOG. visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Tu as un besoin, en fait, de gober l'objet, de le découvrir sous tous les angles.
C'est ça. Bah, disons que l'alimentation, ça passe effectivement. C'est pas je prends, je porte à la bouche directement. C'est qu'il y a quand même
un processus.
Plus l'enfant sera sensible et plus ce processus pourra être lent. Mais il faut d'abord voir, observer. Puis une fois que l'enfant a observé, il va peut-être toucher, il va peut-être sentir s'il y a une odeur quelconque. Et seulement s'il est rassuré sur déjà au moins trois de ces points-là, il va le porter en bouche pour valider.
Pas vu le temps passer. On va marquer
exactement.
Une pause. Et on se retrouve. Intéressant, en conversation. Je veux dire, c'est très ouvert. Si vous voulez vous partager aussi vos souvenirs de ce que vous avez mangé quand vous étiez plus jeune, ou alors vous avez vu votre enfant mettre quelque chose à la bouche, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, machin. Après, quand on est parent, on est un peu parano des fois. On est un peu exagéré. Bon, il met un truc à la bouche, mais qu'est-ce que t'as fait.
La vie dans la nature, je peux te dire que tu peux
pas. Oui, ça calme. Bon, allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Caroline Derumini sur Nutri Radio et son invitée, donc Sabrina Lerche. Est-ce qu'à ce stade-là, on peut toujours parler d'invité?
J'ai une petite anecdote à propos de...
Très bien, on va quand même remercier les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Rappeler que Sabrina Lerche est toujours donc diététicienne nutritionniste spécialisée pour l'alimentation et le rapport à l'alimentation. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de compliquer un truc, c'est facile, des enfants de 0 à 3 ans. D'un seul coup, je suis parti sur un truc incroyable. Donc, c'est quoi l'anecdote, Caroline?
L'anecdote, c'est c'est Raphaël, donc mon dernier, il avait à peu près 6-7 mois. C'était le printemps, donc on n'avait pas du tout intégré ni le lait de vache, enfin voilà, parce que du coup j'ai fait un allaitement exclusif. On n'avait pas intégré le chocolat, on n'avait pas intégré les biscuits, le sucre, enfin voilà, rien. À 6 mois, c'est pas dans la checklist. Et en fait, donc on se balade au bord de mer, on se prend une glace, donc Toscane a sa glace cornée.
Toscane qui est votre
enfance. Toscane qui est ma grande, 7 ans. Donc à l'époque, elle avait 5 ans, 4 ans et demi, bref, ils ont 4 ans de différence. Et on se balade, et du coup, elle a sa glace, nous on a notre glace, et Raphaël n'a pas de glace, mais il s'en fiche complètement. À 6 mois, il regardait les oiseaux, le sable, et du coup, on se tourne, on regarde donc le paysage, et là, moi, je me retourne pour regarder Raphaël, et Toscane lui avait mis la glace dans la bouche. Et là, j'ai fait, ah, bon, ben voilà, tout est intégré. Le sucre, le chocolat, le lait, le
il
froid.
Il a adoré.
Ah, mais il s'en est mis jusqu'en haut, parce que là, après, tu peux pas lui retirer. Enfin, tu peux lui retirer, mais là, c'est le drame. Alors, évidemment, on n'a pas laissé manger toute la glace, mais il a fait une petite diversification alimentaire. Rapide.
Racontez l'histoire entière. Dites que la glace était du rhum raisin, comme ça on est au moins totalement.
Non, vanille chocolat.
Vanille chocolat, ok. Mais bon. Très bien. Tiens, en tant que diététicienne, ça c'est.
Bon, c'était pas la schtroumpf ni la licorne, c'est déjà ça.
Oui.
Parce que maintenant ils ont des glaces schtroumpf, licorne, malabar, des couleurs douteuses, on sait pas trop.
Nous aussi on avait des petits bonbons là, schtroumpf, c'est horrible. En tant que nutritionniste, diététicienne, comment, si ça arrive à un parent qui voit que son enfant a eu accès à un aliment qu'il n'a pas encore introduit, quelle réaction? Faut de dramatiser ou faut aux urgences?
C'est le drame.
Ah, nous on s'est bien marré. Hein. Moi je me suis marrée.
Ça dépend. Hein. C'est qui n'a pas donné, effectivement, bon, là je parle de notre époque, notre vieille époque, fait laisser finir les fonds de verre de champagne parce qu'il y avait un truc à baptiser. Franchement, ça fait partie de notre époque. Il faut le dire.
Comment ?
Il faut le dire. Non, il n'y a pas de drame à ça. Bah, la glace, oui, ça fait partie du jeu, on va dire. Et pourquoi pas ? Concrètement.
De toute façon, c'est fait.
Déjà, et de un, et concrètement, tout a peut être intégré, à quelques exceptions près, à partir de 4 mois.
C'est là, surtout au niveau des allergies, en fait. Qui font
oui, c'est ça, c'est les allergènes et les glaces. Bon, voilà, là, c'est quand même...
Ah bah là, il y avait tout qui n'allait pas.
Alors, si je peux te rassurer, Caro, il y a beaucoup moins de risques parce qu'effectivement, lors de la première présentation, c'est juste une présentation à l'organisme, il ne va pas réagir d'emblée. Par contre, si Toscane avait voulu réitérer le lendemain, le surlendemain, non. Peut-être qu'on aurait pu détecter une éventuelle allergie. Et encore, on ne protège pas de l'allergie en l'intégrant précocement. Donc, je pense qu'il a dû kiffer sa glace.
Du plaisir,
et en fait, c'est ça le bonheur. Parce que le but, c'est pas encore une fois de priver, d'être hyper cadré. Alors c'est vrai que je parlais tout à l'heure du sucre. On a l'impression dans mon discours peut-être que je suis contre le sucre ou autre. J'essaie de faire la part des choses. Le sucre a tout à fait sa place dans l'alimentation, mais ne doit pas être présenté comme un aliment exceptionnel de friandise, de je t'aime, comme on le disait. Ou parce que si on met cet aliment-là sur un piédestal, c'est là où justement on va faire ressortir des choses. Et si on récompense, si on utilise cet aliment un peu spécial en guise de récompense, le fameux dessert s'il ne mange pas le plat, franchement, si on dit voilà, tu finis ton assiette, tu auras un dessert, ça veut dire qu'en gros, ce que l'enfant va manger là, c'est un peu dégueu.
Ingrat par rapport au reste.
Oui.
Ça va venir impacter du coup les comportements quand on va mal, quand on est triste, quand on est dans un état de dépression, rupture ou deuil.
Exactement.
On va venir combler ce manque-là en disant j'ai besoin de sucre, j'ai besoin d'un bonbon, j'ai besoin d'une glace. J'ai besoin de ce genre de choses parce que c'est
remplir d'amour.
Une récompense,
et
exactement.
Voilà, de me remplir d'amour.
On vient chercher la récompense.
Et peut-être, effectivement, je pensais même, les personnes qui, elles, ne mangent pas, ne se sentent pas dignes d'être aimées. Donc, du coup, elles s'empêchent de... En se privant d'aliments, elles complètent ce qu'elles sont en train de vivre, en fait. Je ne suis pas digne d'être aimée.
Quelqu'un qui est anorexique ou qui a des problèmes... Ça peut être une explication, ça?
Alors là, c'est pas trop mon domaine, effectivement, parce qu'on est beaucoup dans les courantes.
C'est un sujet ouvert, Caroline.
Oui, mais généralement, oui. Hein, c'est...
Tous les troubles obsessionnels compulsifs alimentaires, tout ce qui va être de l'ordre de la pathologie anorexie ou boulimie, on va vraiment voir une anamnèse, en fait, du patient où la nourriture a été ou ne pas été. Mais en tout cas, il y a une base qui va être donnée par rapport à ça. Autour de l'émotion et de l'alimentation et de tout ce qui va être sur le développement et l'environnement de l'enfant. Comme je disais tout à l'heure, dans un repas, si tous les repas étaient anxiogènes pour un enfant, forcément, ça va jouer après. Donc l'enfant va quand même profiter, il va rigoler à table, il va vivre sa vie, l'enfant. Il va vivre sa vie, comme je disais tout à l'heure, beaucoup mieux que nous, dans le sens, il va avoir cette... J'appellerais ça de l'intelligence, dans le sens où il va dépasser. Mais en fait, il ne dépasse pas. Il met de côté et il règle plus tard. Donc, tout cet état d'anxiété ou d'anxiogène qui peuvent être les moments des repas, parce que le père est trop autoritaire, parce que la mère pleure tout le temps, parce que le frère engueule sa sœur à table régulièrement, parce qu'il y a toujours une espèce de dispute, forcément, ça va être à traiter plus tard.
Ça, c'est hyper intéressant quand même. C'est-à-dire que quand on est... Il faut faire attention à ça. Et bon, c'est vrai qu'on essaie tous d'avoir un environnement le meilleur qui soit quand on a des enfants, mais après, il y a la vie, les choses. Et donc, entre 0 et 3 ans, quand on... Si autour de nous, ça s'agite, si ça crie, si ça rejaillit plus tard sur notre personnalité, notre rapport
tout
à l'alimentation.
Tout à fait. Ouais, c'est vrai. On peut vraiment cristalliser un problème avec, effectivement, une ambiance ou quelque chose, une émotion. Voilà, il s'est passé un drame. J'étais en train de manger ça et cet aliment peut devenir soit un refuge, soit au contraire être vraiment un aliment complètement rejeté. On parle de l'expérience, hein, je parlerai moi de ma fille aînée qui consommait, attention la diététicienne va avouer un truc, un cochon en pâte d'amande. Oui,
c'est
très sucré, il n'y a pas de problème. Vous voyez comme quoi je suis très ouverte à tout. Elle mangeait ce cochon en pâte d'amande et... Dans les heures qui ont suivi, je pense qu'il y a eu un petit virus gastro qui est passé par là, et elle a tout rendu dans les toilettes. Et aujourd'hui, elle a associé, je mange cet aliment, je vomis. Donc, il lui est impossible de manger cet aliment. Alors, souvent, ça a eu un épisode de gastro. Petite, ma grand-mère m'avait gavée avec les arbouses, un fruit typiquement niçois qu'on trouve sur les collines. À l'époque, on pouvait se promener et j'avais été gavée, littéralement, de ce fruit. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais à l'époque, rien qu'à l'idée, le mot prononcé, j'en avais vraiment la nausée. Et pourtant, j'avais peut-être, moins de 5 ans. Et 35 ans plus tard, j'étais encore mal. Rien qu'à l'idée de voir ce fruit. Et quand je le vois, des fois, il y en a sur les collines de Saint-Laurent-du-Var, il y a vraiment une réminiscence du dégoût que j'ai pu rencontrer parce que j'ai tout vomi, hein, il faut le savoir. Voilà, donc, pour dire qu'il y a vraiment une possibilité avec les émotions, avec tout, de cristalliser vraiment quelque chose Alors, soit positif, tant mieux. Hein, je me
c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'on peut aussi créer quelque chose de hyper positif. À partir du moment où on a conscience de ça, on peut...
Et c'est le but. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas manger du brocoli, si vous le donnez avec plaisir à votre enfant, si vraiment vous le donnez avec le sourire en lui montrant que c'est génial, eh bien là, vous arriverez à faire accepter ce brocoli. Peut-être pas la première fois, peut-être à la dixième fois, mais on ne lâche rien. Et on essaie de faire bah, comme c'était quelque chose de génial. Et plus vous allez faire en sorte que ce soit génial, et même si vous, vous n'aimez pas, on arrivera quand même à faire passer un message comme quoi bah, ça, c'est super.
Et ça, c'est un truc dont on va se souvenir, même peut-être quand on sera plus grand, on dira, ah ouais, le brocoli, on va peut-être
réavoir. Ça va faire une histoire.
C'est vrai, c'est fou.
Une
ça.
Vraie histoire.
C'est beau. Bon, ben, merci beaucoup. Voilà. C'était bien. On va manger
le brocoli.
Merci. Merci beaucoup.
Ils
merci.
Ça. C'est trop bon.
Sabrina Lerche, donc on répète, vous êtes diététicienne nutritionniste spécialisée pour les enfants de 0 à 3 ans sur Nice en distanciel. Enfin, il y a beaucoup de parents qui viennent vous voir.
Alors moi je les vois essentiellement en visio en fait. Voilà.
D'accord. Et ben voilà, donc partout tout le temps. Merci Caroline de Rumini.
Avec plaisir Fabrice.
Émission dispo en podcast à partir de dimanche 18h.
Bien sûr.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Et peut-être que Sabrina sera là la semaine prochaine, on ne sait pas.
Thérapsie, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.